Bouge ton algo avec Moukino.
Salut à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à vous faire retourner les oreilles. Vous êtes prêts à faire bouger vos algos, puisqu'ici, dans nos studios, on n'a pas un, mais deux personnes qui viennent aujourd'hui bouger nos algos, bouger nos âmes, nous faire découvrir des nouveaux sons. Et je parle bien sûr de l'ami Moukino et de Ben de la Brigade Barbarde. Bonjour à toi, bienvenue à tous les deux.
Ça, c'est dur à dire.
Salut tout le monde.
Ouais. T'as vu comme j'ai hésité sur Brigade Barbarde.
Mais c'est le lancement, faut chauffer, ça arrive.
Bonjour et bienvenue à tous les deux, Moukino.
Salut. Salut Yacine, salut Ben.
Je fais
revenir notre ami Ben parce que on l'aime bien, il est plutôt sympa.
Commence à devenir récurrent là.
C'est un être à part entière.
À part du moment où il commence à nous parler de Deftones, je suis toujours heureux de l'avoir.
Après, quand il parle,
il devient un ayatollah de Deftones.
Pas aujourd'hui, mais je peux faire des ponts.
De toute façon, t'as quand même pris un groupe qui reste quand même très collé à Deftones.
Pas de spoil.
Donc voilà, pour notre émission aujourd'hui, j'avais envie de vous parler. On avait envie de vous parler d'artistes qui sont partis trop tôt. Cette ambiance. mais c'est surtout que je sais pas pourquoi, je trouve que depuis quelques années, là, on a beaucoup d'artistes qui disparaissent, des jeunes et des plus vieux, et qui ont plus ou moins façonné notre enfance, notre personnalité. Et je trouve que c'était cool de leur rendre hommage un petit peu dans une émission qui peut paraître peut-être un petit peu déprimante, mais on va pas être dans la dépression, on va être au contraire dans l'évocation de leurs œuvres et de les mettre en avant et voilà, de montrer que tout est intemporel. Mmh. Voilà. Mon ami Ben, tu veux commencer peut-être ?
Ouais, on va commencer. Pour une fois, je vais un peu vous reposer. On va aller plus loin dans les années et surtout beaucoup plus doux. Mais pour moi, c'est un groupe qui m'a marqué énormément parce que c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté avec mon père quand j'étais jeune. Et c'est un groupe que, mine de rien, on connaît tous. Et il y a un nombre de singles incalculables qui ont tourné pendant des années. On va parler de Rick Davies, chanteur, compositeur et créateur du groupe Supertramp.
Ah, exceptionnel.
Donc, très grand groupe. Et ça, ce que j'aime bien, déjà, j'étais complètement passé à côté du fait qu'il était décédé.
C'est vrai, quand tu l'as dit, j'ai fait genre, mais attends. C'est vrai qu'il est mort.
Parce que dans notre superbe organisation, j'ai été prévenu hier de l'émission. Du coup, j'ai dû faire des recherches en speed ce matin. Bon.
Qui est mort.
Alors d'ailleurs, j'ai trouvé un super site, je le conseille à tous, c'est jesuismort.com.
Ah oui,
ouais, c'est pas une blague. J'ai fait mes recherches là-dessus, j'ai scrollé, je fais « Tiens, ça me parle ce nom-là ». Et du coup, ouais, Rick Davies, créateur, clavier, pianiste, compositeur, chanteur de Supertramp, nous a quitté l'été dernier et voilà, comme je disais, un groupe qui m'a énormément marqué et qui parle à beaucoup de monde. C'est un groupe, tout style, catégorie confondu, on connaît tous des sons, je pense qu'il y a tous au moins un son qu'on aime bien dans ce groupe.
Ouais.
Et voilà, je voulais vraiment rendre honneur à ce groupe parce que l'histoire est folle aussi de ce groupe, tout simplement.
Ouais. Moi, je tiens à dire que je les écoute encore chaque matin. Quand je veux me mettre la patate, que je suis un peu fatigué, j'écoute Supertramp sous la douche. Et vraiment, je trouve que c'est le remède à tous les problèmes de la vie. Ça me fait sortir avec une énergie complètement folle à chaque fois.
Ouais, puis il y a pas mal d'anecdotes et c'est... Et ça a influencé aussi beaucoup de monde. Je pense à des mecs comme Phoenix, par exemple. Ils le disent clairement, des mecs comme Supertramp qui ont créé cette pop, rock, un peu prog, mais en même temps très accessible. Et toujours un peu comme on disait avec la musique française, où on arrive à faire des jolies chansons, mais les thèmes sont absolument sont super sombres et dark. Enfin, je trouve que ce groupe est vraiment très intéressant pour ça. Et c'est pour ça qu'on va en parler un petit peu aujourd'hui. Donc, dans les grandes lignes, c'est un groupe des années 60, début 70. Et qui a une histoire quand même assez particulière, c'est que c'est un groupe où c'est ce qu'on appelait les premiers super groupes.
Ouais.
Plein de musiciens, chacun ultra calé dans leur domaine, batteur, batterie, saxophone un petit peu plus tard qui est arrivé, clavier, chant, qui ont été recrutés, tout ça sous la houle d'un mécène, littéralement un mécène, un millionnaire hollandais.
Okay.
Que Rick Davies a rencontré à Londres dans un club de jazz. Ils se sont rencontrés, ça a matché, il a fait « Mec, le rêve de tout musicien, je vais produire ton groupe. Je crois en ton projet.
Je vais te prendre tous les meilleurs musiciens du monde.
Voilà, on va les recruter ensemble et on va faire un truc de fou. Ben, c'est ce qui s'est passé.
Ouais, mais c'est surtout dans cette période-là, je trouve que c'est quelque chose qui réapparaît souvent. Des sortes de super groupes comme ça. Ouais, je sais pas si par exemple les Eagles ou des trucs comme ça, c'était un peu la même thématique.
Je suis pas assez calé sur les Eagles
Moi, surtout, je pense que c'est un cas rare où un super riche fait quelque chose de super bien. Et ça, c'est quand même aussi important.
Il faut le dire.
C'est assez rare pour être notifié, non ?
Bon, il s'est dit que s'il y avait un petit billet à la fin, ça serait pas mal non plus. Hein, je pense pas qu'il faisait ça non plus totalement par altruisme pour la culture.
Il a misé sur le bon cheval parce que Supertramp, pour le coup, ils ont bien fonctionné.
Oui, ça lui a bien rapporté les sous. Oui, je veux dire, il a fait une bonne chose, mais il a aussi bien le
bon, en fait, c'est pas un super riche qui a fait quoi que ce soit de bien. Alors, du coup,
tant qu'à faire, il a pu rendre service à tout le monde. Il s'est fait un petit billet, tout le monde il est content. Je pense que les mecs de Supertramp ont dû vivre un petit peu grassement aussi quelques temps. Il y a eu 2-3 royalties qui doivent encore tomber aujourd'hui, je pense. Mais voilà, c'est une succession d'albums qui ont plus ou moins marché dans les années 70 jusqu'à 79. Même la pochette est iconique. On arrive à Breakfast in America, dont le single Breakfast in America. Mais on regarde le listing. Des singles.
Ouais, des singles.
C'est un fou. Ne serait-ce que c'est quand même un groupe, pour moi, je l'ai connu et je pense comme beaucoup de personnes, avec un best-of. Le best-of est presque plus connu
parce que tu connais pas spécialement
que certains albums en particulier.
Ouais.
Mais il regroupe tellement de titres. C'est un best-of que tu peux écouter de A à Z. Et je voulais mettre une chanson à l'honneur de eux, qui est un petit peu longue, mais leurs chansons sont quand même plutôt longues en général, parce que bon, ce côté un petit peu prog. Mais on s'ennuie pas, ça peut durer 5-6 minutes, mais avec eux on s'ennuie pas, c'est toujours un petit voyage qui est quand même bien marquant pour moi. Et c'est que, comme disait Yacine, moi aussi c'est quelque chose que je peux écouter tout à l'heure, que j'ai écouté toute ma vie, et je pense que j'écouterai ça pendant un moment.
C'est un mood changer, ça vraiment, moi je trouve que ça a un impact sur l'humeur. Moi ça, je sais que ça me booste quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, j'écoute Supertramp et je ressors avec une petite énergie.
Ouais, il y a cette beauté qui est inhérente à ce groupe, quoi. Et comme tu dis, invitation au voyage, t'as envie de rouler.
Puis je trouve que cet album aussi de 79, il est vraiment genre. Il pourrait faire partie de la chronique 10 sur 10, tu vois.
Ah, 10, direct.
Tu vois, genre, c'est un album que on a au moins tous eu, ou notre famille a eu dans leur discographie médiathèque.
CD Tech.
Ouais, je sais pas, tu vois, c'est comme Nirvana ou quoi. Ça fait partie de ces groupes qui ont, chaque décennie, t'as un groupe, je trouve, iconique, comme les années 90 avec Nirvana. Les années 70, Supertramp, tu vois, genre vraiment, ils ont tout cassé à ce moment-là.
Et le mérité.
Ouais, mais c'est marquant, quoi. C'est des groupes qui ont littéralement marqué l'histoire de la pop, du rock. Certes, on entend moins parler maintenant, mais il y a eu quelque chose. Il y a eu un avant-après, quoi.
S'écoute. Oui, pardon.
Ouais, non, rien. C'était au contraire, c'était ça. tu veux qu'on s'écoute le son quand même
Pense qu'on peut s'écouter le son, histoire de.
Tu nous as choisi de quoi, lequel, du coup.
On va partir sur Hide in Your Shell, qui est pour moi ma chanson préférée de ce groupe.
Allez, c'est parti pour
la plus joyeuse. C'est parti.
Caché dans ton coquillage, c'est parti.
Toi, t'as envie d'être joyeux aujourd'hui.
Ouais, grave.
Thank you.
saxo à la fin.
Oh là 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 là. À l'époque, t'appelais ça le saxophone, tu vois. chaque intervention de sax, c'est là genre, oh oui, oh oui.
Le mec, tu sais, il tient son sax. Voilà.
Hop là. Ils étaient souvent débardeurs, les mecs qui faisaient du sax à l'époque, tu vois.
Du
genre,
sax.
Du sax. Et je crois que c'est la première fois depuis qu'on fait l'émission tous ensemble que j'ai mis tout le monde d'accord. Là.
Ah bah là.
Ah bah moi, Super Trump, quoi qu'il arrive, c'est 10 sur 10 tout le temps. Hein. Mais en plus, je trouve qu'il y a quelque chose de très fort, comme tu dis, c'est que souvent, c'est des paroles assez tristes. Mm. Et je trouve qu'il y a une forme de nostalgie que tu ressens quand t'écoutes Super Trump, comme si tu étais déjà vieux et que tu l'écoutais, que ça te rappelait quelque chose que t'as oublié. Ouais. Genre,
moi, je vois beaucoup des téléfilms un peu en mode pick-up en fin fond de l'Ohio. Là,
ouais, ça roule dans le Nevada.
Ouais, c'est ça. Genre, je sais pas, je les vois là, ces mecs là, en jean avec un peu troué en débardeur. C'est avec les cheveux un peu bouclés qui. Casquette.
Non, mais c'est vraiment.
Patagonia.
C'est pour moi, mais tu vois, typiquement, bon, là je vais aller un peu loin peut-être, mais je trouve qu'en termes de créativité pure, moi ça, je trouve qu'entre les Beatles et Supertramp, il n'y a pas un écart si.
Mais, eh ben, putain, merci. Il me fait des transitions, c'est bon ça.
Non, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment cet après années 60 et 70, mais on sent quand même la touche des années 60 dans Supertramp, qui est exceptionnel.
Et le duo, donc. Rick Davies, celui dont, qui nous a amené à parler de ce groupe dont, qui est décédé, était justement un peu l'image, 10 ans plus tard, d'un Lennon-McCartney avec son comparse DJ Roxton, Roxon, il est impossible à dire son nom de toute façon. Et voilà, c'était les deux à l'origine du groupe compositeur, c'est ça qui a fait que le groupe s'est séparé aussi, mais voilà, c'était le duo 10-15 ans plus tard après les Beatles, pareil. Qui ont amené des trucs, beaucoup de créativité, enfin là on l'entend, je réécoutais. Heureusement qu'il y avait un millionnaire derrière parce que les sessions d'enregistrement elles ont dû coûter bonbon.
Mais
il y en a des instruments derrière.
Il y a une touche de, je trouve, de tout quoi. T'as un peu des Beatles, un peu des Beach Boys aussi, t'as un peu des Rolling Stones et en même temps t'as un petit peu ce rock qui commence à arriver, tu vois, fin des années 70, début 80. Un peu glam, tu vois, un peu glamour, enfin voilà quoi. Et tu le sens qu'il y a une transition qui est en train de se faire et Supertramp est vraiment dans cet entre-deux-là.
Ouais, la jonction.
Qui est hyper, hyper touchant et qui va ouvrir du coup la porte à, j'imagine, à d'autres groupes et qui a refermé aussi la parenthèse des Beatles et tout ça. Et c'est vrai qu'on était beaucoup à la recherche de cet après-Beatles dans les années 70. Et Supertramp, en fait, finalement, ce millionnaire-là, c'est peut-être ce qu'il a recherché, quoi. C'est créer ce groupe qui peut devenir peut-être pas aussi iconique, parce que c'est vrai qu'on parle toujours plus des Beatles que Supertramp, mais je trouve que Supertramp fait partie quand même de ces groupes, super groupes, comme tu dis, top 5, je pense, ou top 10, de ces groupes qu'aujourd'hui, ça fait partie des mastodontes, quoi.
Ah, mais ils ont apporté tellement de choses, juste en réécoutant, en termes de production, de... Il y en a de partout, il y a plusieurs claviers, il y a des bongos, il y a des... C'est incroyable, c'est un banger. Mais je trouve, la force, je trouve, par exemple, de ce genre de titre, c'est qu'ils arrivent à te mettre 6 minutes 30 dans la tête, t'as pas envie de zapper.
Ouais, tu le sens pas passer.
Et surtout que t'as l'impression d'écouter plusieurs morceaux en un. Ouais. Il y a aussi, c'est un voyage, quoi. Tu passes d'une énergie à une autre, c'est pas lisse, quoi. Franchement, je... Exceptionnel.
N'en fais plus, des trucs comme ça.
Ah non, mais ça, c'était avant.
Ça, c'était avant, ça.
Moi, le gaucho en moi tient à dire que si on mettait les milliards ailleurs que dans l'armement, on se rend compte qu'avec de l'argent, on peut faire des choses incroyables en musique. Et là, typiquement, tu mets quelques musicos, quelques gars avec un peu de talent et beaucoup d'argent dans un studio, tu peux avoir des merveilles. Hein.
Peut-être qu'on aurait ce genre de production.
Ouais, mais après, il devait être Babylone, en fait.
Ouais, Yarman.
Et au final, on préfère les bombes. Hein, mais voilà,
en parlant de Babylone.
c'est ça la transition.
Oh là là, les transitions s'affusent aujourd'hui.
Hein. Vache.
Ah, j'avais pas capté la transition.
Ah oui, mais oui, non, t'étais tellement dans ton bobo gaucho là.
Putain, c'est moi qui parle de Babylone, on aura tout vu quoi.
C'est vrai qu'après notre petite escapade Supertramp, c'est quoi, c'est américain, je crois.
C'est des Anglais.
C'est des Anglais. Après notre petite escapade anglaise, moi je vais aller en France, en Normandie exactement.
Ah yes.
Ça fait plusieurs temps que je parle à Yacine et que j'ai dans l'idée de parler de cet artiste qui est mort il y a presque un peu plus d'un an maintenant, Naaman. Naaman, notre voilà, ça y est.
Enfin, voilà, c'est ton moment.
C'est mon moment. Voilà, je vais vous raconter un petit peu le comment j'ai vécu la disparition de Naaman et vous expliquer pourquoi cet artiste m'a autant touché. Moi, ça part un petit peu de... Bah, j'étais dans un bus, j'allais rejoindre mon cousin à Montpellier pour manger avec lui, dans sa nouvelle maison, son nouveau chien, ses projets, sa vie qui est... d'avant, et la mienne, ma vie aussi, on va discuter de tout ça. Et dans le bus, je suis là, je vois une publication, Naaman est mort. Honte de choc dans ma tête, ce mec-là, il m'accompagne depuis mon adolescence. Pour moi, c'était improbable. Pourtant, Naaman n'a jamais caché sa maladie. Déjà en 2019-2020, il annonce être atteint d'une tumeur du cerveau. Son album Temple Road, le dernier qu'il a fait, a été conçu comme étant l'ultime. On le voit sur les réseaux, avant, après son opération, ça a fonctionné. Il est toujours là, toujours en vie. Ce même sourire immense et cette bienveillance. On se dit que c'est bon. C'est pas une prolongation, il revient sur les routes pour les festivals. On a l'impression que la machine est repartie. Naaman, c'est ce gars que tu vois programmé partout dans les festivals. Pendant plus de 10 ans, le mec a ratissé la France, l'Europe, le monde aussi. On se dit que ça va, que tout marche, qu'il est là. Mais en fait, ce n'est qu'une façade. Une maladie comme les cancers, les trucs comme ça, il y en a toujours un petit peu derrière. C'est jamais vraiment fini. Et Naaman va payer un peu le prix de tout ça, je trouve. Pour mettre un petit peu mes mots en évidence, je vous propose qu'on écoute Walk de Naaman. Et puis... après, on va aller un peu plus loin dans sa personnalité, qui il est, autre le fait que c'est notre rasta blanc national français.
Favori.
Et on va casser un peu ces codes-là aussi. Pourquoi on dit rasta blanc, etc. Naaman, Walk.
Yeah, man.
Oh. Babylone, Babylone.
Yes.
Naaman, c'est qui, en fait ? Martin Mussard, de son nom, de son vrai nom, est un Normand. Il fait adolescent des soirées vinyles sous Bob Marley. Rencontre plus tard un groupe de jazz manouche, avec qui il jam fort pour devenir le groupe Naaman and the Deep Rockers Crew. C'est avant tout un groupe de potes qui entoure Naaman. Tout le monde a compris que ce mec a un potentiel, une flamme en lui. Avec Fat Baz, un ami beatmaker Selecta, la machine se lance. Sunska Festival, une référence du genre en France. Des mixtapes qui fonctionnent. Un petit voyage en Jamaïque, quand même. Il faut toujours faire un petit peu...
Yarman.
aller en terre promise. Pour se faire adouber par des tontons du reggae. Et ça part. Des albums, des tournées, une vie comme artiste qui commence à travers les festivals et toujours ce sourire et cette joie de vivre qu'il transmet à tout le monde. Naaman, c'est le Rasta blanc ultime. C'est super péjoratif, je trouve, de dire ça, finalement. Mais, en fait, c'est vrai. Mais moi, ça me fait marrer, car pendant longtemps, on en plaisantait avec les potes. Mais j'ai envie de casser ça. Naaman, c'est pas une appropriation culturelle d'un genre musical inventé par des hommes sur leurs îles, des hommes qui ont créé une religion Rasta bien misogyne, dans le fond, un petit peu, quand même. Je vais pas refaire un petit peu toute la religion Rastafari, c'est pas non plus... mon truc, mais il y a quand même quelques petits débordements dans
cette religion, dira-t-on.
Comme toutes les religions. Et la religion où un gars a dit un jour qu'un mec en Éthiopie était le Messie. Voilà. Pourquoi pas, faisons-le.
C'est lui. Salut.
C'est lui. Naaman, c'est un mec qui a été touché par la musique en l'écoutant et en l'interprétant comme il le sentait. Il avait ce talent aussi, ce phrasé, cette voix sortie de nulle part, puissante, virevoltante. Pour lui, le reggae, c'est l'amour, la paix, la bienveillance, le respect. Comme beaucoup d'autres artistes, mais il a utilisé ce genre, le reggae, le raga, le ska, sans avoir de faux rasta ou de fausse identité. C'est un peu l'enfant des tontons comme Dubbing, Sims Emilia, Dana Kill.
Massilia Sound System.
Exactement. Et autre groupe des années 90-2000. Il a inventé son style en s'inspirant de ce que prônaient Bob Marley et d'autres, outre Ja et le fond religieux. C'est surtout l'humain qu'il voulait mettre en avant. Et c'est ça que je trouve que l'on oublie souvent avec ce genre d'artiste. C'est le fait, en fait, surtout de rassembler. On est là pour la paix, on est là pour l'amour. C'est vrai que ça peut être un peu gnangnan, un peu, tu vois... surfait, on va dire, mais il le faisait bien. Et moi, ce que j'aime bien aussi avec Naaman, c'est que il y a pas d'appropriation culturelle. C'est une sorte de, voilà, il le fait au feeling comme il veut, ouais, avec sa personnalité.
Faut le dire, le genre musical reggae, c'est comme le rap, ça s'est développé. Le rap s'est développé aux États-Unis et le reggae en Jamaïque. Mais en vérité, après, chaque pays se l'approprie et amène sa touche culturelle. C'est-à-dire que nous, à Marseille, on a des groupes de reggae qui reprennent du reggae, mais qui viennent parler de Marseille, parler de... Souvent, c'est assez politique, comme tout est politique, disons-le, mais c'est souvent assez politique, mais c'est aussi un genre qu'on s'approprie et dans lequel on vient mettre sa part de culture. Donc, ça peut se faire au Japon, ça peut se faire en Mongolie, en France, et c'est pas de l'appropriation culturelle, au contraire.
T'as déjà écouté du reggae japonais ?
J'aimerais trop. C'est, honnêtement...
C'est vraiment une chronique pas mal.
Non, mais je ne serai pas là.
Mais je suis persuadé que ça doit être génial, en plus. Vraiment, d'accord. Je pense qu'il doit avoir du reggae japonais, tout comme il y a du rock japonais, sans doute, et du rap japonais aussi.
Le rock japonais, ouais, ça existe d'ouf. Hein, ah le rap aussi, mais le rock, c'est hyper connu. Pour
c'est là où il faut faire attention. C'est vrai que peut-être qu'on approprie, on accole au reggae forcément la culture rasta et on a l'impression que c'est l'appropriation culturelle de récupérer le reggae, mais pas du tout. Par contre, effectivement, peut-être se faire des dreads, là, c'est une appropriation culturelle.
C'est une autre chose, mais bon, après, dans tous les cas, on écoute tous des styles différents et toi, après, tu les interprètes à ta manière, tu les as digérés, écoutés et ça ressort. Ouais. Avec des influences, et tu n'as pas écouté que du reggae, j'imagine que Naaman n'écoutait pas que ça non plus, comme tu dis, il y avait du raga, du ska...
Oui, et la musique, ça a toujours été ça, en fait, ça a été des rencontres culturelles et des appropriations...
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est le but de la musique, c'est de ne pas refaire exactement pareil, tu digères avec ce que tu as écouté, et tu produis autre chose, tout simplement.
Ouais. Carrément. Mais Naaman, en plus, ce que je voulais mettre aussi en avant, avec ce petit hommage, parce qu'à un moment donné, il faudra aussi, je trouve... faire même une chronique par rapport un petit peu à cette évolution du reggae en France, tu vois, avec tous ces groupes un petit peu des années 90-2000, avec Massilia, avec Dubbing, et même avant, avec...
Trio.
Trio,
c'est trio, plus musique du monde, mais c'est vrai qu'il y a certains sons qui sont très...
Les deux premiers albums, ils étaient très roots, ouais. Le premier album surtout. Mais oui, ils ont fait partie aussi de ces gens-là. C'est vrai que c'est horrible. Je vois Ben en parler, ça le tend.
J'ai cassé ma chaise.
Mais ça fait partie aussi de la culture française.
Et je tiens à dire que Trio, pour les avoir vus en concert plusieurs fois, Ben, c'est génial.
Ok, ouais, ouais, non, cool.
Alors
c'est
là,
cool
mon pote, t'es pas prêt de m'y emmener. Hein.
Bah, j'aimerais bien t'y amener parce que honnêtement, moi je sais qu'après adolescent on est perméable à ça, hein, mais je sais qu'il y a une partie de ma culture politique en tout cas que j'ai faite grâce à Trio et vraiment où ils ont parlé de sujets écologiques bien en amont de beaucoup d'autres groupes et
ça,
c'est eux qui
pas, ça je peux pas leur retirer, il n'y a pas de souci.
Et bah, ils m'ont fait découvrir certains sujets, mais après je comprends qu'on aime, on n'aime pas, ça c'est les goûts de chacun, mais pour le coup ils ont amené quelque chose que d'autres groupes n'ont pas amené, c'est-à-dire une ouverture sur le monde et en plus en français, donc ça permettait d'être accessible là où des groupes anglais, typiquement je sais pas, Deftones par exemple, on comprenait pas forcément ce qu'ils disaient quand on était jeune.
Elle va rester longtemps cette étiquette.
Non mais surtout que tu tires sur Trio, moi je tire sur Deftones, c'est comme ça, genre chacun son tour.
Non mais oui, mais clairement, et ces gens-là, voilà, et Naaman c'est un peu l'enfant de ces gens-là, en reprenant les codes un peu des années 2010. Et moi, j'ai clairement vécu toute mon adolescence avec lui. Et du coup, quand j'ai appris qu'il était décédé, même si on savait qu'il était sur un fil quand même, tu vois, la dernière année qu'il a faite, il a tourné un peu à droite à gauche, il a fait quelques festivals, mais le mec, en fait, il était malade. Et il a décidé, au lieu de prendre le temps et de se soigner et d'allonger un petit peu sa vie, il a dit, vous savez quoi, je prends des médocs, un max, ou enfin je sais pas, quelque chose comme ça, mais il a dit au lieu de passer mon temps à l'hôpital, moi je préfère faire quand même les concerts, aller jusqu'au bout du contrat, faire vibrer les gens, et en fait voilà, il a fini ses jours très heureux, j'imagine.
En tout cas, on te le souhaite.
Sa dernière chanson quand même m'a fait chialer, hein, parce qu'elle a laissé un dernier son avant de partir, qui est très touchant parce qu'à la fois c'est beau, mais c'est aussi quand même, il y a toujours une part de tristesse, hein, je pense, dans les au revoir, les adieux. C'est vrai que ça m'a.
Il a fait littéralement une chanson d'adieu.
Ah ouais. Ouais, pas vraiment en gros.
Ce qu'on connaît sa condition.
Non, c'est le dernier son qui est sorti de lui et je pense qu'il a écrit avec l'idée que sa fin était proche, quoi. Il y avait quelque chose de.
Oui, forcément, il y a un petit background.
Il y a un petit côté, voilà, quoi. Tu sens que dans l'écriture, il parle en même temps de sa relation amoureuse et je pense qu'il parle aussi de la relation qu'il a avec les gens,
de ses proches aussi,
de ses proches et tout. Et c'est hyper touchant parce que c'est vraiment une musique qu'il a écrite. Je crois que j'avais vu un article qu'il avait écrit un petit peu. Lui, il est mort en février, le 7 février exactement. Et moi, c'est ça aussi qui m'a beaucoup impacté, c'est que moi, je suis né le 8.
Comme par hasard.
Tu vois, genre, non, mais c'est vrai que ça arrivait à un moment très punchy, quoi. Mais surtout qu'il a écrit ce chanson, je crois, en décembre, où il a enregistré tout ça. C'était un peu vraiment son dernier enregistrement qu'il a pu faire. Et voilà. Et du coup, la musique est d'autant plus touchante quand tu sais qu'en fait, là, la voix que t'entends, c'est vraiment un petit peu sa dernière force qui met.
C'est le chant du cygne.
Ouais, c'est ça. Et c'est beau, en fait. C'est hyper touchant. Il faut profiter de ça parce que, voilà, il faut écouter ces gens-là. Et même dans la entre guillemets, l'approche de la mort, le mec, il reste sur la positive vibes, il met en avant l'amour, l'attachement, les liens avec les gens.
Je vais tout donner jusqu'au bout.
Jusqu'au bout.
Je vais continuer à tourner.
Tu vois, il a aucune haine.
Non, mais c'est beau.
Et c'est trop bien. Et je trouve que ce genre d'artiste-là, c'est vrai qu'on peut. Ça peut ne pas être ton style. Toi, tu peux un peu décrier le style et l'idée. Mais en termes.
Nous envisager par un regard là.
Non, mais tu vois,
bien sûr.
Après,
autant je n'aime pas le style, ça c'est sûr. Mais par contre, je respecte l'artiste, je respecte le message. D'autant plus dans cette volonté d'aller jusqu'au bout de sa propre vie, pas de sa carrière, c'est de sa propre vie, et de vouloir continuer à donner comme ça à son public, ça par contre je trouve ça magnifique.
Et puis c'est que des potes, quoi, autour de Naaman, c'est que des potes, quoi, les mecs depuis le début, depuis 10 ans qui tournent, ils sont tous entre potes, quoi. Fat Baz qui est aujourd'hui un petit peu son legacy, c'est un peu ça, lui qui maintenant transmet un petit peu, parce que c'est lui qui a fait quasiment tous ses sons, et c'était son beatmaker. Aujourd'hui, Fat Baz est un peu sa mémoire, et ça fait plaisir de voir qu'il continue, qu'ils sont toujours tous entre potes. Il y a tous les musiciens qui ont joué avec lui, et, etc., qui jouent des fois des sons à eux, à lui, dans leur set de concert, etc. Et c'est touchant, en fait, de voir qu'il y a toujours un après, en fait. Et cet après, il est joyeux, il est sûrement dur pour tout le monde, mais en même temps, il transforme
aussi
ça.
Faire aussi honneur à ceux qui sont partis. On vous oublie pas. Il y a un héritage.
Ouais, c'est ça. Du coup, voilà, si vous voulez, on peut s'écouter le deuxième son de Naaman, comme ça au moins on finit bien. Naaman Smoke Tricks Jamaican Flavor. Tiens, là, il n'y a que des mots que Ben adore.
Il n'y a que des mots clés là.
Et moi, j'aime bien.
That's the way we used to fly away. Fly away. Sexy rolling is on top today. I love to hear me up cracking your fingers. Your wet tongue licking up a king size pepper. In your eyes, there is a touch that me alone. So catch me fire, girl. Tell you, mama, we are just smoke cheese, you know. Sit back in slow-mo, I love the way your lipsticks, girl. Oh, yeah, smoke cheeks a lot. Look into the slow dove line when you blow it, baby. Ain't no innocent smoke. Together we up till we get the end close. Simplicity, what's my love, baby? That's the way you close it. Open up your mind, I'll be playing on your senses. Get ready, it's your illegal license, so please me. Outside it'll be baby, my bummer. Hear me, girl, we only smoke birds when it's any roll. A big one, feed me, honey. In the morning when me rise, sex rolling is the one love. Smoke cheese, you know. Sit back in slow-mo, love the way your lipsticks, girl. Oh yeah, smoke cheeks a lot. Look into the slow dove line when you blow it, baby. Hey, smoke cheese, you know. Sit back in slow-mo, love the way your lipsticks, girl. Oh yeah, smoke cheeks a lot. Look into the slow dove. Yeah, yeah. Open the curtains, let the sun blow me eyesight. Warm me up while you're moving so tight, yeah. I know what you gonna do. At this a time is for you. Yes, do a trick straight. Through this your light. Use the occasion while we feeling alright. We say come on to the top. We gonna make this bird fly. Look where you stress to below is a crime scene. Ooh yeah, whoa. That's the way we used to fly away. Sexy rolling is on top today. We are just smoke cheese, you know. Sit back in slow-mo, I love the way your lipsticks, girl. Oh yeah, smoke cheeks a lot. Look into the slow dove line when you blow it, baby. Hey, smoke cheese, you know. Sit back in slow-mo, I love the way your lipsticks, girl. Oh yeah, smoke cheeks a lot. Look into the slow dove line when you blow it, baby. That's the way we used to fly away. Yeah, yeah, yeah. I know what you gonna do. This your small tricks for you. Oh yeah, yeah.
Smoking is an art.
Ben.
Mais c'est génial.
Rest in peace, Naman.
Eh oui,
allez,
merci à toi. Reposons
en paix quand même. Bah respecte
oui.
L'homme.
Bah oui.
Elle commençait si bien cette chanson. J'ai adoré l'intro par contre.
Ah bah oui, bah c'était le côté un petit peu lo-fi.
C'était cool, ouais.
Ouais, ils ont fait le petit lo-fi quoi.
Moi, j'ai vu des étoiles dans ses yeux quand j'ai dit j'ai bien aimé l'intro. Il a dit ah, Ben a dit un truc positif sur du reggae. Bravo.
Il y a quelque chose qui est en train de se faire ici, même dans ce studio.
Ouais, ouais,
mec, je viens de Rennes, la ville des punks à chien.
Ah oui, c'est vrai.
Du reggae,
oui,
du ragga, oui, tout ça.
Vrai,
donc,
vrai,
tu n'y arriveras pas.
Est-ce qu'on t'appellerait pas MC Ben à la fin de cette émission?
Ouais, je suis un peu Selecta. Non.
En fait, il est en train de nous cacher qu'il a vu peut-être potentiellement qu'il aime bien un petit peu les ogres de Barbac, peut-être.
Super gros.
Allez.
Bon Ben, tu veux nous parler de quoi toi?
Eh ben merci pour faire encore une transition.
Ouais.
Et on va partir dans Babylone.
C'est qu'en plus le groupe qu'il a choisi, c'est tellement
c'est tellement Babylone, mec. Mais il vous a tous marqué. On s'en souvient tous. On en avait déjà évoqué quand on avait parlé un petit peu du new metal il y a quelques émissions.
Oui.
Et c'est vrai que Sam Rivers, le bassiste de Limp Bizkit, nous a quitté il y a quelques temps. Et je voulais mettre un petit peu plus l'accent sur ça. Bon, on va pas. On peut revenir rapidement sur les événements de Woodstock 99. Hein. Le gros bordel.
Voilà.
Merci
on en avait parlé
Bizkit.
D'ailleurs déjà.
Voilà,
une
exactement.
Fois
ensemble. Ouais. Et je pense que on peut se mettre un petit son. On va se mettre dans l'ambiance
voilà.
Direct.
Comme ça, on sort un petit peu du reggae là, de
voilà.
Poète là.
On va se mettre un petit break stuff. Woodstock 99. On a tout cassé. C'était Babylone, les gars.
Allez, c'est parti.
Celui-là était violent.
It's just one of those days when you don't wanna wake up. Everything is fucked, everybody sucks. You don't really know why, but you wanna
one of those days.
It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit, let the shit slip, or you'll be leaving with a fat lip. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit. It's just one of those days, feeling like a freight train. First one to complain, leaves with the bloodstain.
Ça décrasse, hein.
On passe d'un univers à un
autre. Non mais attends, là, là c'est autre chose.
Ouais, ça réveille. Mais pour reparler de Woodstock rapidement, en 99, donc était le nouveau Woodstock, et il y a eu un documentaire sur Netflix pour parler de cet événement qui a viré à la catastrophe. Ah, et c'est vrai qu'ils expliquent que ce son est un des déclencheurs du moment où les gens ont commencé à péter un plomb et tout casser. Et c'est vrai que quand on l'écoute, moi j'avais envie de casser le studio aussi un petit peu.
Ah, on l'a retenu là. Yacine était à ça de tout casser dans le studio là.
Non mais c'est vrai qu'il y a une énergie.
Déjà les paroles, l'énergie, et puis c'est vrai que Fred Durst, le chanteur, était monté sur scène pour faire cette chanson à un moment, puis c'est vrai qu'il a vraiment chauffé la salle en disant « Bon les gars, allez, cette chanson s'appelle Casser des trucs. Je veux que vous fassiez ce que je dis, on va casser des trucs. »
Mais en même temps, il avait des animaux en face de lui, il allait pas dire « Bon les gars, la paix, la paix.
» Allez, fais un bisou à ton copain à côté, petit câlin, et on va danser ensemble.
Tu sentais, parce que j'ai vu les lives et tout, tu sens que des fois, il balance des petits scuds en mode « Respectez-vous entre vous, faites attention, nanani nanana. »
Parce qu'après, on va quand même se manger un petit procès au cul.
Ah, mais même eux, je pense qu'ils doivent se dire peut-être qu'on a lancé, on a allumé une mèche qu'on n'avait pas prévu de voir exploser aussi fort derrière.
Si. Non, Limp Bizkit, ils étaient très au courant de comment ça se passait et qu'est-ce qui ils avaient en face d'eux.
Ouais.
Après, ils ont pris le choix. Ils avaient le choix de ou juste on n'y va pas parce qu'on le sent pas, ou on y va et on va jusqu'au bout du truc. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont fait, tu vois. Après, on peut pas. Moi, je trouve, on peut pas trop leur en vouloir sur ça.
Ça a été la pire et la meilleure promo pour eux d'ailleurs.
Oui, ouais. C'est ça.
Parce que Limp Bizkit, quand même, un groupe très controversé.
Tout le temps controversé.
À son époque. De par beaucoup de choses, de par le style, de par la composition du groupe, ce chanteur à la casquette à l'envers, t'as l'impression que c'est un lycéen un peu énervé, le bully du lycée.
Mmh.
En même temps, t'as le DJ, le machin. Enfin, le côté new metal qui était détesté, Limp Bizkit l'incarne. Tout le monde leur crachait dessus, les magazines spécialisés, la scène, tout le monde leur crachait dessus. Mais mine de rien, ils tournent encore, les mecs.
Mmh.
Bon, après des dissensions, des splits, mais Sam Rivers, du coup, pour revenir à ce bassiste, lui était là depuis le début, depuis la création du groupe. Lui, il est resté jusqu'à la fin avec le chanteur et le batteur. Il était là depuis le début. Le guitariste lui était parti et revenu. Maintenant, ils sont au complet. Bah, du coup, non, pardon.
Mais j'aimais bien, moi, les sections de basse de Limp Bizkit, parce que je trouve qu'il a un côté très... un peu impro-jazzy, je trouve, dans les... tu vois, quand tu l'écoutes vraiment, ça part vraiment sur des sonorités qu'on n'a pas trop l'habitude.
Mais il était fort, parce que, bon, comme beaucoup... D'ailleurs, mention honorable, c'est dans le thème de l'émission, comme beaucoup a été inspiré par Black Sabbath, beaucoup de groupes de rock, de metal, etc., hein, et Ozzy Osbourne. Mais il a été aussi énormément influencé par le funk, par Liam Hunt, tous ces groupes-là. Il le dit, moi j'ai écouté ça toute ma jeunesse, c'est ça qui m'a donné envie de faire de la basse, c'est le funk. C'est pas comme il y avait cette vibe aussi, Korn à l'époque, où c'était slap à fond, très technique. Lui, il voulait la note juste, le gros groove. C'est pour ça que la basse aussi est très mise en avant dans les morceaux de Limp Bizkit. Enfin, il y a trois musiciens et un chanteur. La basse, elle n'est pas en arrière-plan, c'est pas juste une basse solide, c'est vraiment... Elle fait partie intégrante de ce que t'entends, quoi. Ouais,
et puis, contrairement à Wes Borland, qui est le guitariste, qui, pendant très longtemps, il ne savait pas trop ce qu'il faisait. Il a un peu une sorte d'oreille musicale, mais en termes d'accords et même sa guitare, en fait, tous les riffs qu'il a, c'est vraiment genre des riffs un peu, pas au hasard, mais Wes Borland, il a un peu cette magie-là. C'est que le gars, en fait,
Il sait pas jouer.
Bien sûr qu'il sait jouer. Mais à l'époque, dans les années 90-2000, il faisait concrètement, lui, c'était sa guitare, c'était son truc, il faisait n'importe quoi.
Il faisait joujou.
Ouais, il faisait joujou.
Mais ça sonnait.
Et il savait pas ce qu'il faisait.
C'est génial. Ouais. Ça veut dire que ça m'ouvre des perspectives, même pour moi, de faire
exactement,
quelque chose.
Exactement, c'est ça qui est beau.
C'est ça.
C'est ça qui est assez marrant avec Limp Bizkit, mais... Entre ce chanteur irrévérencieux qui passe son temps à faire des doigts d'honneur à tout le monde, montrer, hop là, le package.
Mais Wes Borland aussi, hein, parce que souvent il était déguisé en kilt et tout, et souvent quand il jouait, il balançait un peu la jambe et tout au-dessus de sa guitare, et tu voyais ses robinets là.
Ça c'est sympa, le pied sur le retour.
Ah oui, c'est ça. Mais oui, j'ai plein de... Il y a plein de moments où tu vois les robinets qui dépassent, et lui il est comme ça.
Ah, t'as envie d'être contre là. Ah, t'as envie d'être sur les crash barrières là.
C'est de l'exhibitionnisme.
C'est une autre époque, hein, faut le dire aux enfants, voilà.
Et Sam Rivers, voilà, quelqu'un qui est important parce que critiquer les mecs, ils sont critiqués depuis le début, mais ils sont toujours là. Et mine de rien, la presse, la scène, tout le monde les critiquait. Mais par contre, c'est des albums qui ont marqué tous les kids de l'époque.
Ouais.
Bon, j'écoute moins maintenant, mais ça fait partie de ma culture quand j'étais ado. On a tous écouté un petit peu au collège, au lycée, tout le monde écoutait ça.
Moi, j'ai toujours un peu tu vois, par exemple, quand je vais au taf et tout...
Et que j'ai envie d'en découdre.
Ouais, là, je sais que j'ai plein de mises en place à faire.
Je vais tabasser.
Moi, je me mets un petit nookie, là, et puis je te dis que ça...
Tu parles de riff un peu chelou.
Ouais, nookie, c'est n'importe quoi.
Il joue sur une guitare 4 cordes, un peu accordée comme une basse. On ne comprend rien du tout. Qu'est-ce que tu fais, mon pauvre grand, là. Mais voilà, c'est beaucoup d'albums marquants. Ça commence dès 97. Il y a la reprise de Faith de George Michael, qui les a fait connaître. Après, on arrive sur Significant Other quelques années plus tard avec le son qu'on vient d'écouter, Break Stuff. C'est que des albums de fou. On arrive aussi à Chocolate Starfish quelques années, juste un an plus tard. Chocolate Starfish, d'ailleurs, j'ai enfin compris la pochette. Tu as revu la pochette récemment ?
C'est pas avec tous les petits personnages trop chelous, là ?
Oui, ça s'appelle Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Donc ça n'a aucun sens. Ça veut juste dire l'étoile de mer au chocolat et l'eau aromatisée au dog.
Bah c'est comme le nom déjà de Limp Bizkit, ça veut dire.
Voilà. J'ai découvert ce matin qu'est-ce que c'est cette. En fait, la petite étoile de mer.
C'est pas un petit anus.
Voilà, c'est une partie.
Mais gros, t'avais pas. Bah là, rien
j'avais
que
jamais
tu l'as montré,
capté.
J'ai capté que c'est un petit truc.
Voilà. Et les saucisses. Enfin voilà, j'ai enfin compris cette pochette d'album.
Ouais, c'est tout, c'est métaphorique.
Je suis en train de la regarder par curiosité sur mon portable. Et effectivement, oui, c'est. Mais on comprend que les parents aient du mal à laisser leur enfant écouter ça quand on voit la pochette de l'album.
Attendez, mais Thomas, il y a un rectum là sur le.
C'est les petits bonhommes, ils sont sympas.
C'est des petits lutins.
Mais oui, regarde.
Après, c'est un peu une constante de tous les nouveaux genres qui apparaissent et qui déplaisent toujours à toutes les générations précédentes et qui finissent toujours par charmer la génération qui arrive des 10-14 ans, on va dire, qui en fait vont grandir avec le rock. Ça a été exactement la même chose.
C'est teenage à mort, c'est ce qui plaisait le plus aux adolescents, mais parce que c'est l'époque de la rébellion, eux sont littéralement dans un nouveau truc, ils se font clasher par tout le monde, mais c'est pas grave, on continue. On fait des doigts à tout le monde et ça marche, ça a marché. Ils ont traversé les époques. Donc Sam Rivers, paix à ton âme. Mais...
Ils tournent toujours d'ailleurs, en plus, même si.
Bien sûr,
parce qu'ils avaient anticipé un petit peu, parce qu'ils étaient malades.
Du coup, ils ont pris un nouveau bassiste. Et là, je sais qu'ils tournent en Amérique du Sud. Et ils sont toujours avec, du coup, nouveau bassiste. Sam était malade déjà depuis un an ou deux, je crois. Donc, il avait... Et là, ils ont sorti un...
Apparemment,
un...
crise cardiaque. Mais il avait déjà subi une grève de foie.
Il était physiquement déjà bien... Enfin, sa santé était hyper fragile. Et ça faisait déjà quelques temps qu'il tournait plus trop. Et je sais plus... voilà, c'est ça. Et je crois que le dernier son qu'ils ont sorti, ou les derniers... je crois qu'ils ont un petit EP ou un truc qui est sorti, là. C'est les derniers enregistrements avec Sam. Voilà, au cas où. Si vous voulez avoir un petit côté un petit peu nostalgique.
Et pour rester et rendre honneur, je voulais terminer sur un son pareil, controversé. Là, c'était ancienne versus nouvelle génération. Mon père a détesté parce que c'est une reprise des Who, Behind Blue Eyes, que moi à l'époque j'ai adoré. Mon père était un fan des Who, il a détesté. Mais c'est une chanson, mine de rien, elle a traversé les années elle aussi. Beaucoup de monde la connaît. Ça a été sorti à l'époque pour la BO de Gothica.
Ah oui.
Avec Ali Berry.
Très bon souvenir.
Ouais. Et. Petit pont, c'était produit par Terry Date, le producteur de Deftones. Voilà, j'ai réussi. Eh ouais, tu l'avais pas vu venir celle-là.
Et il a réussi à caler
Deftones. Voilà. Voilà, je voulais. Et comme ça, on redescend un petit peu. Je vais arrêter de vous agresser à chaque émission les oreilles. On s'écoutait Behind Blue Eyes, la reprise des Who de l'album Results May Vary.
What it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free.
Discover
like to be mistreated, to be defeated behind blue eyes.
Je suis reparti 15 ans en arrière avec cette chanson.
Ah, de ouf, mec. Elle est incroyable.
C'est sale, là, avec ce filtre derrière.
Elle est sale, mais elle est belle. La guitare, elle est incroyable dans
Et
ce
n'était pas Westmoreland qui a joué.
C'était pas Westmoreland, c'était Mike Smith de Snot, qui n'est resté qu'un an, mais qui, pour moi, a laissé ce morceau.
Impeccable. Bah, album de toute façon, Westmoreland, il ne pouvait pas jouer, il ne savait pas jouer.
Ah, il faisait un autre super groupe.
Non, les gars, je fais que de l'aléatoire, je vous l'ai déjà dit. Faut pas me donner de mélodie.
Les quatre accords magiques, je ne connais pas.
Pas de ça chez moi.
Bon, bah, ça fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup.
Ah, bah, de rien, ça fait plaisir.
Écoute, c'était un plaisir de redécouvrir les Pinskis parce que je savais effectivement depuis mon adolescence que je ne les ai pas réécoutés.
Ouais.
Parfait. Passons à quelque chose pareil. On va finir en douceur cette petite émission pour vous parler d'un artiste qui est mort il y a très peu de temps. C'est aussi pour ça finalement que j'ai voulu faire cette émission, parce que je me suis dit oh là là, ça y est, là ils commencent à tous tomber, mes artistes un petit peu d'enfance, j'ai l'impression que là depuis 2024-2023 tout le monde tombe au fur et à mesure. On va parler de Timber Timbre, un petit groupe canadien assez sombre. Les trois premiers albums sont iconiques, adulés par la critique. On est au milieu des années 2000 et on a un ovni sur les ondes musicales. Une folk sombre, mélancolique, qui prend son temps. Dans une époque où tout apparaît.
Prends le temps, si tu veux.
Ouais. Dans une époque où les écoutes, les radios, les gens changent leurs habitudes en termes d'écoute, etc. Internet devient énorme. Le physique disparaît, les radios nous bombardent entre pubs et super groupes de gros labels ou de grosses productions. Mais Timber Team est là, le calme canadien. Moi, j'aime beaucoup. On est, pour la première fois que j'ai écouté Timber Team, je ne m'imaginais pas du tout à quoi il ressemblait. Tu sais, il y a un petit peu toujours cette... je trouve qu'on a toujours un écart de quand on écoute une voix et quand on voit la personne, tu vois. Et c'est vrai que Timber Team, c'est ça. Quand on découvre ce décalage, on est ou un petit peu surpris, ou un petit peu décontenancé, ou déçu. Mais là, pour moi, c'était tout le contraire. Taylor Kirk, le chanteur, qui est décédé du coup récemment, c'est un grand bonhomme, tout fin, avec un visage rond, un grand front, tout blanc, des cheveux un petit peu dégarnis, toujours longs, un petit peu... Voilà. Il est particulier.
Il peut pas s'empêcher de parler sur le physique, c'est incroyable ça.
Ouais, mais j'aime bien.
Il l'a pas fait sur moi, du coup, c'est
pas fini,
qui c'est qu'il va prendre.
Il a une dégaine de nerd, voilà.
Bah non, pas du tout. Il est grand, on dirait une sorte, tu sais, de mec un petit peu...
Joueurs
dans le bayou un peu, tu vois, genre tu sais, je sais pas trop,
les consanguins,
c'est joueur un petit peu consanguin, voilà, c'est troublant, moi je le trouve assez touchant. On sent une sensibilité, une voix chaude, vibrante, mais qui ne force pas, c'est reposant. C'est là où on comprend un petit peu sa musique, sa personnalité, avec tous ses cheveux parsemés, avec ce chapeau iconique finalement, je trouve. Au fur et à mesure du temps, je n'ai pas vraiment les raisons, mais Timber Team ne faisait plus qu'un. Dans les derniers albums ou sur la page Wikipédia, on voit en membre actuel juste Taylor. Ses albums font moins de bruit, on dirait qu'il a décidé de s'effacer au fur et à mesure du temps, nous laissant juste ses musiques, cette folk un petit peu planante, pour disparaître dans l'anonymat soudain. À 44 ans, c'était le 14 avril... il n'y a pas longtemps, donc on tourne cette vidéo deux semaines après environ le 14 avril. Moi, ce que j'ai aimé avec Timber Timbre, c'est vraiment une époque où j'écoutais beaucoup de musique, beaucoup de choses un peu violentes, rapides, intenses, et je pouvais me réfugier avec eux, plonger dans une mélancolie, faire une pause douce dans un système qui n'est plus fait pour ça. Et pourtant, Timber Team était là. Ils ont explosé, ils ont fait des albums hyper reconnus, hyper adulés. Et ça m'a ouvert les portes de ce style un peu smooth, un peu alternatif, un peu indé folk. Et c'est ça qu'on aime, rêver calmement et chaudement. Je vous propose qu'on termine un petit peu cette émission avec ce son Hot Dreams de Timber Team. C'est vrai que je t'avais dit qu'on pouvait mettre Demon Host, mais on va mettre plutôt Hot Dreams pour finir. Comme ça, on finit sur un rêve chaud pour rendre hommage un petit peu à ce chanteur, Taylor Kirk. Qui, en fait, à la fin, il n'était plus que tout seul dans Timber Timbre. Je ne sais pas pourquoi, tous les musiciens, etc., je pense qu'il y a une petite histoire un peu sombre, ils ont dû se prendre la tête tous ensemble. Parce que même dans, tu vas voir les artistes de l'époque des premiers albums, tu vas voir les artistes des premiers albums, tu vas sur leur bio, ils ont tous effacé Timber Timbre. Donc c'est un peu étrange en fait, et je trouve qu'il y a une sorte de, de paradoxe et de mystère autour de tout ça. Et lui, il a vraiment fini un petit peu sa carrière à sortir les deux derniers albums quasiment incognito, tout seul. Le fait de voir qu'en membre actuel du groupe Wikipédia, il y a juste lui.
Faut que je regarde.
J'ai trouvé ça assez
Il y a
assez
un reportage à faire, il y a une enquête à faire en tout cas. Il y a un mystère là.
D'ailleurs, en plus, et encore plus mystérieux, on l'a retrouvé mort. Sa mort est soudaine et on ne sait pas trop quand est-ce qu'il est mort exactement.
C'est vrai que le Wikipédia est concis.
Ouais, et c'est ouf quoi. C'est, voilà, je trouve que son mystère est autour de sa vie et de tout ça est comme sa musique, très mystérieuse. Et voilà, je vous propose qu'on écoute du coup Demon Host. Voilà.
Demon Host du coup
Hot Dreams.
On va y arriver.
Et pour finir tranquillement. Et,
bah écoutez, voilà. C'était un plaisir de vous avoir dans les studios. En tout cas, Ben, Mokito.
Toujours un plaisir de venir. Merci.
Et excellente journée à toutes et tous.
Mais oui, salut. I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance with a black woman. I wanna steal, I wanna steal my mind. And I wanna chance, I wanna chance, I want another chance. To distill, to distill their time. And I wanna write, I wanna write to someone so true. I wanna wake, I wanna wake, I wanna wake from hot dreams of you. Ah, hot dreams.
I want to